Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Un bon réveil à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur RMC 7h07. Et après le jardin et avant de retrouver tout à l'heure la forme et la santé avec Christian Aikas et la maison. Rebonjour Christian Pessé.
Eh bien, rebonjour François Sorel.
On télétravaille et quand on télétravaille, il faut plus de place. Pour avoir plus de place, il faut aménager sa maison différemment.
Oui, et la bonne solution, c'est de faire des extensions par exemple.
Et oui.
Gagner des mètres carrés, soit les gagner sur les mètres carrés existants. Bon, ça, c'est on va dire, l'aménagement par exemple des combles ou d'une pièce qui n'était pas très, très utilisée. Et puis sinon, bah, c'est de gagner carrément en linéaire des mètres carrés. Et on va voir comment ça peut se faire.
Alors combien ça coûte d'avoir plus de place dans sa maison? L'incidence fiscale aussi, faut-il un architecte? Faut-il un permis de construire? Enfin, toutes ces questions que vous vous posez sans doute.
Mais oui.
Eh bien, vous pouvez nous joindre au 3216
voilà,
pour nous interroger.
De la question.
Le 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Dans un instant aussi, on évoquera la rénovation globale de la maison, avec toujours ce mot clé, hein, l'accessibilité pour bien vieillir chez soi.
Et oui, ça va être très très important.
Le grand défi de notre société pour les années qui viennent.
Rester le plus longtemps possible chez soi, dans les meilleures conditions.
Et puis Christian, on reviendra sur cette histoire incroyable qui a fait la une de tous les médias cette semaine.
Eh oui.
Le squat d'une maison à Théoul-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes.
Eh oui, c'est assez désagréable de vouloir rentrer chez soi
et de voir qu'il y a quelqu'un qui est sur la terrasse.
Des occupants, alors ça pose tout un tas de problèmes juridiques et puis humains, évidemment. Et on en parlera avec David Rodriguez, qui est juriste à la CLCV. L'association bien connue de défense des consommateurs.
Voilà, et puis à tout moment, vous pouvez nous joindre au 3216, le standard RMC, l'appli RMC, Direct Studio. Tout comme nous, peut-être êtes-vous en train de touiller votre café. Mais écoutez, bon réveil, merci d'être avec nous sur RMC. Et on attaque Christian avec Dany qui est avec nous. Bonjour Dany.
Bonjour monsieur.
Bonjour Dany.
Oh écoutez, Christian et François, entre nous. Dany. Franchement, messieurs là...
Allez-y, quel est votre problème?
Alors, j'ai une grande terrasse de 40 mètres carrés qui est très très bien exposée et j'ai des remontées de salpêtre ou de calcaire ou je ne sais quoi, ce sont des remontées blanches entre les carreaux.
Ouais.
Et impossible d'enlever, j'ai essayé de gratter, c'est absolument impossible. Quand il fait soleil, ça glougloute.
Ça glougloute.
J'ai le petite remontée d'eau ou de je ne sais quoi, et c'est pas beau. Et je voudrais bien essayer de m'en débarrasser.
Alors attendez, votre terrasse, c'est une terrasse de plein pied ou c'est une terrasse d'étage?
Une terrasse d'étage. Une
terrasse d'étage. Votre immeuble, il est récent ou il est ancien?
Non, il est ancien. Quarantaine d'années.
Voilà, mais il n'est pas neuf.
Bon, ben, non, pas du tout.
Ce qui se passe...
La terrasse a été refaite il y a un peu moins de 10 ans.
Bon, mais c'était pas l'année dernière. Donc, de toute façon, ce qui se passe, c'est que votre revêtement, votre carrelage n'est pas étanche. Donc, vous avez de l'eau qui s'infiltre sous les carreaux. Et lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait un peu plus chaud, l'eau qui est en dessous de votre carrelage, il faut bien qu'elle sorte quelque part. Donc, elle remonte par les joints. Et en même temps qu'elle remonte par les joints, elle emmène un certain nombre de sels minéraux. Qui sont notamment ceux qui sont contenus dans le béton, dans le ciment, dans la colle carrelage qui a peut-être été utilisée. Et donc, vous vous retrouvez effectivement avec donc cette eau qui s'évapore par les joints de carrelage. Et quand elle s'évapore, elle emmène avec elle, c'est un peu le principe du salpêtre, bien que ça n'ait rien à voir avec le salpêtre en tant que tel, puisque le salpêtre, c'est vraiment un phénomène tout à fait particulier dans la construction, mais c'est assimilable. C'est-à-dire que, évidemment, quand l'eau s'évapore, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les sels minéraux. Et les sels minéraux, ils sont solides. Donc, vous arrivez à avoir une croûte qui se forme en surface de ces joints. Et moi, j'ai pas beaucoup d'autres solutions à vous donner que de poser la problématique de l'étanchéité de votre terrasse. Et pour éviter que, donc, ça se mouille en dessous, tout bêtement, en dessous de vos carreaux. Et sinon, pour ce qui est d'enlever aujourd'hui ces efflorescences, parce que vous pouvez aussi les enlever au fur et à mesure, bah, c'est nettoyer très souvent votre carrelage, et notamment au niveau des joints, et bien de travailler. C'est un carrelage de type grès cérame, c'est-à-dire il est très lisse, il est verni en surface en quelque sorte.
C'est ça, oui. Ouais.
Donc, vous n'avez pas beaucoup, parce que si on y met des produits acides, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, par exemple, avez-vous déjà essayé tout simplement d'y mettre du vinaigre chaud? Du vinaigre blanc
non,
chaud?
Non, j'ai essayé le vinaigre, mais pas le vinaigre chaud.
Ah, bah oui, mais ça, il faut qu'il soit chaud pour qu'il y ait une réaction, même presque brûlant. Alors, et puis, il y a des produits dans le commerce qui sont les produits anti-salpêtre, etc. Mais vous allez lutter contre la conséquence, mais pas contre la cause. Donc, le problème de la cause, alors, c'est un problème d'étanchéité. Donc, là, il faut. Mais moi, je pense que ça n'est pas à négliger, parce que vous pouvez toujours. Enlever les efflorescences qui ressortent au niveau des joints, mais ça veut quand même dire que en dessous votre balcon, votre terrasse, elle est suspendue, j'imagine. Donc, on sait en ce moment, on sait récemment les problèmes qu'il a pu y avoir avec justement la dégradation des balcons. Globalement, mettre ça balcon ou terrasse, parce que effectivement, l'eau en même temps qui s'infiltre, eh bien, elle attaque les fers du béton, et elle peut aller jusqu'à fragiliser le balcon lui-même, et avec les conséquences
alors,
que ça peut avoir.
Alors, ce n'est pas vraiment un balcon, parce qu'en dessous, il y a un appartement.
Hein. Ouais. Ben, il faudrait que vous demandiez déjà aux gens qui sont en dessous s'ils n'ont pas déjà des traces d'humidité au plafond.
Bon. Non.
Donc, ça veut dire que c'est pas très humide, mais voilà, c'est le phénomène que je vous décris. Alors, essayez de lutter avec des produits donc de décapage des efflorescences.
Non, ce n'est
pas grand chose.
Hein, non.
Mais vous avez des produits, allez voir en grande distribution de bricolage, c'est des produits qui sont justement contre les efflorescences, et essayez-les, et puis sinon, tentez le coup de ma bonne vieille recette du vinaigre blanc très chaud, brûlant.
D'accord.
Et puis vous grattez. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie. Je suis là pour ça.
Merci, Dani.
Merci, enfin.
Bon, attention, le vinaigre blanc, je pense que Christian Eka nous le confirmera, il n'est pas à boire cul sec.
Hein, non,
Christian.
Pas, non. Et puis surtout, fait, surtout quand il est brûlant.
Ça fait le double effet.
Hein. Ouais, c'est ça.
Là, ça décape, comme on dit. Ouais. Christian, soyons sérieux un peu, s'il vous plaît.
Oui,
parce que là, je vous sens un petit peu, je sais pas, taquin ce matin. Tout à l'heure, on évoquera les extensions pour télétravailler et mieux vivre à la maison. N'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez nous joindre au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio pour poser vos questions, bricolage, maison. Il est temps de retrouver le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai mis mon casque, comme on doit le faire sur un chantier, et mes chaussures à bout renforcé.
Ah oui, bien sûr. Vous avez abîmé la moquette avec tous ces parpaings qui tombent là. On va évoquer la rénovation globale de la maison, la suite, puisqu'on avait évoqué ce sujet déjà la semaine dernière, et évoqué l'accessibilité pour bien vieillir à la maison,
Et oui, la semaine dernière, je vous ai parlé de rénovation globale, en commençant par les grands secteurs qui vont d'ailleurs bénéficier d'aides importantes dans le plan de relance. Alors, je vous avais parlé de l'étude thermique, l'isolation, la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement. Et j'ai mis à part la question de l'accessibilité avec pour priorité évidemment la salle de bain, mais on verra que la cuisine c'est aussi important. Alors on ne peut pas aujourd'hui se lancer dans une rénovation globale sans avoir une vision évidemment à long terme. En France, vous savez, on déménage peu et lorsqu'on fait construire une maison ou lorsqu'on la rénove globalement, eh bien c'est souvent pour la vie. Il faut envisager aujourd'hui la rénovation global dans la perspective d'habiter sa maison le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Autrement dit, n'ayons pas peur des mots, jusqu'à la vieillesse. Alors moi, il y a longtemps, vous m'avez entendu dire ici que pour moi, l'avenir de la maison de retraite, des EHPAD, comme on dit aujourd'hui, eh ben, c'est certainement dans nos propres maisons.
Évidemment.
C'est-à-dire qu'on va adapter la maison aux conditions du vieillissement. Alors, l'action, ça porte évidemment en priorité sur le remplacement remplacement de la baignoire par une douche, sur l'aménagement des toilettes.
Ça, c'est la
toilettes.
Première chose à faire.
Oui, c'est la première chose à faire.
On enlève la baignoire.
Ouais, c'est le piège classique.
Et on met la douche.
Voilà, c'est là où c'est la zone de risque principale. Les toilettes aussi, c'est important. Alors, il y a aussi l'aménagement du cabinet de toilette à travers le lavabo, les hauteurs standardisées aujourd'hui, des moyens aussi, même vous avez des lavabos qui peuvent évoluer en hauteur, qui peuvent être réglables en hauteur en fonction de la personne qui les utilise. Et puis il y a aussi évidemment la cuisine. Alors le plan de relance inscrit d'ores et déjà des actions dans ce sens avec la participation d'Action Logement. Vous savez, Action Logement, c'est le collecteur du 1% logement bien connu, qui est collecté lors des constructions neuves. Et c'est justement par l'aménagement de la salle de bain et des toilettes que sont pointés les travaux à réaliser en priorité. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis nous devrions avoir donc un jour la ministre Emmanuelle Wargon qui devrait venir nous visiter et répondre justement à cette problématique des aides pour la salle de bain. Alors on parle aujourd'hui de jusqu'à 5000 euros avec des conditions d'âge, soit il faut avoir plus de 70 ans, soit 60 ans et un niveau de handicap, et puis aussi des conditions de revenus. Tout ça est pas simple, tout ça est un peu compliqué, donc on va nous l'expliquer, j'espère que ça va être simplifié, et puis surtout que ça va être renforcé, parce que là il y a des conditions qui, moi me semblent, je dirais, malvenues, parce que les conditions qui y sont mises, en fin de compte, pratiquement, on va vous dire qu'il faut déjà que vous soyez handicapé pour bénéficier, par exemple, du remplacement de votre baignoire. Moi, je préférerais qu'on remplace la baignoire par la douche avant de tomber dedans. Hein, ça serait peut-être pour, comme ça, enfin, je dis. Hein.
Oui, avant qu'on soit handicapé.
Alors, évidemment, le plan de rénovation globale, comme je le disais à l'instant, ça intègre la notion, évidemment, d'accessibilité, mais il faut aussi penser à d'autres lieux. Et là, qui, pour l'instant, ne sont pas subventionnés du tout, la cuisine, c'est aussi un lieu extrêmement important à traiter, et pas seulement à traiter sous l'angle esthétique, parce que ça fait des années qu'on voit les cuisinistes qui nous font des très belles cuisines, des trucs sympas, du verre fumé, etc. Mais en réalité, le problème, c'est par exemple de bien traiter, vous savez, on parle d'un triangle, une sorte de triangle magique dans les déplacements pour éviter les pas inutiles, éviter les risques aussi de chute.
C'est quoi la cuisine idéale quand on vieillit, en fait?
C'est une cuisine où on ne se déplace pas inutilement. C'est une cuisine où on a des appareils électroménagers qui permettent d'y accéder facilement. Par exemple, le four à porte escamotable, ça devrait être presque généralisé. Parce que quand vous avez, si vous êtes, et alors un jour vous pouvez être en fauteuil roulant, si vous amenez un fauteuil roulant et qu'il faut ouvrir votre four, vous voyez, pour aller au fond, ça va être un peu difficile.
Oui, c'est un peu compliqué.
Donc en revanche, si vous avez une porte escamotable, c'est génial, vous arrivez pile au niveau de votre four. Alors après, il y a tout un tas d'accessoires qui peuvent, par exemple, pour ouvrir un robinet. Vous vous rendez compte, des fois, vous avez le robinet, il est tout au bout, là, et vous pouvez pas l'atteindre. Bon, il y a des robinets avec des poignées qui sont plus longues, qui permettent de bien travailler. Les éléments eau, la plupart des cuisines ont des éléments où vous pouvez même pas accéder à la dernière tablette si vous faites pas 1m90. Bon, il y a quelques grands-mères qui ne le font pas forcément.
C'est pour ça que je mets les chips en haut, comme ça vous ne pouvez pas y avoir accès.
Je sais bien. Hein. Accès. Et puis alors, il y a aussi les escaliers. Là, il faut traiter les escaliers, des nez de marche antidérapants, des éclairages de contre-marche, tout un tas de petits accessoires qui vont vous éviter la chute et après, évidemment, l'hospitalisation et les conséquences. Donc, on reviendra sur tous ces aménagements.
On en saura plus quand, Christian ?
Eh bien, on devrait en savoir plus, déjà peut-être dans 15 jours, si la ministre veut bien venir nous voir.
Eh bien, écoutez,
ce qui est normalement prévu.
On lui lance cet appel vibrant. 7h21, Christian, on revient dans un instant. On va parler du télétravail, les extensions pour télétravailler et mieux vivre à la maison, mieux travailler à la maison. Ça dans une minute, juste après la météo. À tout de suite.
RMC.
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de votre rendez-vous maison sur RMC 7h28. Merci d'être là et bon réveil. On pense aussi à tous ceux qui travaillent ce samedi matin qui sont avec nous. Bienvenue. Christian, tout à l'heure, on reviendra sur cette incroyable histoire du squat d'une maison à Théoul-sur-Mer.
Oui.
Quel comportement adopter lorsqu'on découvre que sa maison a été squattée? Qu'est-ce qu'il faut faire?
quelle démarche entreprendre, quelle poursuite engager. On en parlera avec un invité qui sera avec nous.
David Rodriguez, habitué de cette émission, qui est juriste à la CLCV, l'Association de défense des consommateurs.
Voilà. Et puis, dans l'immédiat, on va évoquer les extensions pour télétravailler et mieux vivre à la maison. Le télétravail, maintenant, ça concerne beaucoup d'entre nous, pratiquement tout le monde. Vous avez des questions parce que justement, vous aimeriez aménager votre appartement, votre maison, pour peut-être créer un coin télétravail, une nouvelle pièce. N'hésitez pas, dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 3216 ou alors nous joindre via l'appli RMC Direct Studio pour poser vos questions.
Voilà, alors nous sommes avec Giovanni Leca, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes secrétaire général du club de l'amélioration de l'habitat et puis par ailleurs délégué général de Thermorénov, une structure qui fait de la rénovation justement globale, on en parlait. Secrétaire général du club de l'amélioration de l'habitat, c'est quoi ce club de l'amélioration de l'habitat ?
Alors c'est une organisation qui regroupe des acteurs publics et privés, hein, aussi bien les ministères que les entreprises du bâtiment et industriels, qui mettent des moyens en commun pour mieux connaître le marché et l'ensemble de pour mieux mesurer et observer le marché de la rénovation.
D'accord, donc c'est une structure essentielle pour l'ensemble de ce monde de la construction, surtout en ce moment, j'imagine.
De la rénovation, parce qu'effectivement, en rénovation, on a assez peu de chiffres, et l'objectif, c'est de mieux mesurer ce marché et de mieux le comprendre.
D'accord. Et les informations, en fait, c'est pas pour le grand public, là, c'est pour les professionnels.
Essentiellement, oui, mais qui au final vont bénéficier aux particuliers.
Et oui, il faut un petit peu qu'ils s'intéressent aux gens, hein, les industriels, hein, parce que
Quelle bonne idée.
Oui. Il y a quand même des consommateurs au bout, mais je trouve que c'est une très bonne initiative, une belle structure. Alors on va attaquer donc cette affaire des extensions pour télétravailler, mais aussi pour mieux vivre à la maison. Alors c'est quoi le type d'extension auquel les catégories d'extensions qu'on peut envisager?
Alors, on parlait essentiellement en maison individuelle, en cas d'agrandissement, d'augmentation de surface. Donc la première nature d'agrandissement, c'est au sol. En fait, c'est l'extension. Donc là, effectivement, la première question, c'est la configuration du terrain. Oui. Est-ce qu'on aura la place d'avoir une extension et de construire sur un morceau du terrain, et tout bien sûr en respectant les règles d'urbanisme qui ne le permettent pas toujours.
Oui. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. C'est qu'avant il y avait le poste, il y avait tout ça. Ça n'existe plus maintenant.
Il y a quand même des règles locales d'urbanisme.
Locales. Voilà. Mais on n'est plus contraint de dire on ne peut que faire que quelques mètres carrés. Là maintenant, c'est quoi? C'est le moins de 20 mètres carrés ou le moins de 40 mètres carrés pour éviter le permis de construire, c'est ça?
Alors les seuils, c'est entre 20 et 40 mètres carrés selon si on est dans une zone couverte par un PLU ou un POS, un plan d'occupation local des sols ou un plan local d'urbanisme.
Oui. Et donc, à partir de là, on fait quoi? Une déclaration de travaux si on est à moins de 20 mètres carrés ou moins de 40, suivant les conditions que vous venez de dire. On n'est pas forcément obligé de faire un permis de construire, si on dépasse les 150 mètres carrés, c'est ça?
Exactement. En fait, si vous êtes jusqu'à 20 mètres carrés, une déclaration préalable suffira. Sauf si vous êtes dans une zone dans laquelle votre commune a un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols. Dans ce cas-là, cette surface pourra aller jusqu'à 40 mètres carrés avec une déclaration préalable. Au-delà, il faudra passer par un permis de construire et le recours à l'architecte sera obligatoire si la surface totale de la maison après travaux d'agrandissement est portée à plus de 150 mètres carrés.
Il y aurait peut-être des modifications de loi à faire, non? Justement, après cette pandémie.
Ça s'est déjà beaucoup assoupli, hein, attention, hein, par rapport à ce que c'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc, il faut bien aussi qu'il y ait un peu quelques garde-fous. Hein.
Oui, bien sûr. 7h32, Christophe est avec nous au 32-16. Oui, bonjour Christophe.
Attends.
Christophe, excusez-nous de vous déranger en ce samedi matin. Vous êtes à l'antenne.
Alors allez-y, posez votre question.
Tout va bien, la maison, ça va?
Oui, très bien. En fait, je vous explique, j'ai une maison vigneronne. Donc dans l'Hérault, ça se trouve beaucoup. Donc on a, j'ai au total 680 mètres carrés de bâti, mais 400 mètres carrés en fait de garage, c'est-à-dire au rez-de-chaussée.
680 mètres carrés de bâti au sol?
Non, de bâti global en fait.
Ah d'accord.
Parce qu'en fait la maison, c'est une maison vigneronne, donc j'ai 400 mètres carrés au sol, au rez-de-chaussée.
C'est confortable ça quand même. Hein.
Oui, bah, en fait c'est 400 mètres carrés de garage, donc voilà.
Ah oui, d'accord.
Oui, parce qu'il y avait les anciennes cuves et tout.
Et alors quelle est votre question?
En fait sur l'étage, j'ai ma maison principale de 110 mètres carrés et tout le reste en fait c'est de la terrasse.
Oui.
Et j'aimerais bien créer en fait deux extensions pour faire deux chambres. Et sachant que en fait c'est au sol, c'est les traverses en béton. Donc c'est entre le rez-de-chaussée et le premier étage, tout a été fait en poutre béton armé.
D'accord. Et votre interrogation, c'est quoi? C'est en quoi vous pouvez faire votre extension?
C'est en quoi et si jamais j'ai besoin de faire demander un permis de construire.
Ah ben, Giovanni, permis de construire, oui, là. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Absolument, ouais. Absolument indispensable. Et en structure, alors, qu'est-ce que vous conseillez là-bas ? On en vient à en quoi faire une extension ?
Bah, il y a différentes solutions. Vous avez toutes les solutions en filière dite classique, en maçonnerie. Donc là, on va retrouver les parpaings, les briques, etc. Donc, qui ont l'avantage d'être des méthodes bien connues des professionnels, oui. Qui permettent de s'adapter assez facilement sur mesure. Et notamment, quand on a des contraintes d'accès, on peut pas toujours accéder facilement au terrain. Et là, ce type de solution apporte pas mal de flexibilité. D'accord. Et après, vous avez toutes les solutions dites en filière sèche. Donc en ossature métallique, ossature bois, qui ont l'avantage d'avoir une possibilité d'avoir une préfabrication en atelier, donc facilité de mise en œuvre, de rapidité de pose, on limite les nuisances de chantier, on n'a pas de bétonnière qui va tourner, et une légèreté de la structure.
D'accord. Et il faut faire très attention là au problème d'étanchéité de la toiture, c'est des toitures plates.
Bah, là encore, on peut avoir les deux solutions. Hein. C'est pas parce qu'on est en ossature bois, par exemple, qu'on va voir forcément une toiture plate. On pourra avoir une toiture à deux pans, trois pans. Je dirais que là, on a d'une part les règles d'urbanisme qui vont nous autoriser ou pas un certain nombre de solutions. Et ensuite, quel que soit le type de toiture qu'on va mettre, forcément, il faudra qu'elle fuit.
Bon, une extension comme ça coûte cher, messieurs.
Ah, combien au mètre carré, en gros?
Une extension, à combien au mètre carré? On parle d'extension au sol?
Par exemple, on peut peut-être prendre les deux.
Oui, on peut prendre plusieurs scénarios.
Extension au sol.
Extension au sol, on va avoir du mal à descendre en dessous de 1700-1800 euros. Hein, globalement, les prix moyens, on va être sur du 1800 à 2000 euros du mètre carré.
D'accord. Tout compris.
Alors, tout compris. Alors, moi, je parle bien tout compris. Alors, c'est vrai que chez Thermorénov, on intervient sous la forme d'un contrat global de rénovation, un peu comme un constructeur de maison individuelle, finalement, quand il fait un contrat de construction. C'est un projet clé en main, avec un prix global et forfaitaire, un contrat. Mais dedans, on va intégrer tout l'accompagnement en amont, donc toute la partie administrative, permis de construire, toutes les études préalables, puisque forcément, on peut être contraint de faire une étude de sol en extension, une étude de structure, si on fait une surélévation. On va avoir toute la partie accompagnant optimisation au plan du financement. Si on a des travaux dans le même temps sur la partie existante, ou quand on fait de l'aménagement de comble d'une partie déjà construite, on peut bénéficier d'un certain nombre d'aides. Donc, toute cette partie d'accompagnement en amont est incluse dedans. Et on inclut également dans ce prix la notion de coordination. Puisque forcément, quand on fait une extension,
oui, bien
une
sûr, surélévation, il y a plusieurs corps de métier.
Voilà, on va faire intervenir plusieurs corps de métier, comme en maison neuve. Ah, sauf que ça sera dans une dimension moindre, mais en tous les cas, on aura le même nombre d'intervenants. Et là, il faut forcément qu'il y ait un professionnel qui coordonne. Sinon, ça veut dire que c'est le particulier qui va le faire. Et là, c'est un métier. Et...
Alors, ça veut dire ça. Là, on en est sur, justement, la notion de globalité. Est-ce qu'on peut le faire soi-même, aller chercher les entreprises? Vous, avec Thermorénov, par exemple, vous êtes plutôt pour, on appelle ça quoi, un contractant général?
Voilà, c'est ça. Alors, ça s'appelle un contractant général, c'est-à-dire que l'entreprise à qui vous confiez les travaux va aller chercher les différents intervenants et contractualiser directement avec eux. Donc, le particulier n'a face à lui qu'une seule entreprise et il confie ce projet à cette entreprise qui lui fait un projet clé en main.
Donc, on l'a compris, 20 mètres carrés. 40 000 euros, à peu près.
Hein, grosso modo.
Voilà, c'est ça. Christian, nous avons Damien Tessier avec nous.
Oui. Oui, bonjour Damien Tessier. Donc, bonjour, vous êtes là, oui?
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes directeur de Natibox et Innovation. Alors, vous êtes un spécialiste du studio de jardin. Alors, ça, c'est quoi un studio de jardin?
Alors, nous, aujourd'hui, on propose des extensions qui sont fabriquées en usine et installées en une seule journée chez nos clients pour des surfaces entre 15 et 27 mètres carrés.
Ah, d'accord. Donc, en fait, on achète quelque chose qui est déjà fabriqué, d'accord, et qui va se connecter en quelque sorte à notre maison. C'est ça?
Exactement. Nous, on conçoit l'intégralité en usine, suivant le choix du client, et on vient juste l'installer en 2 heures dans le jardin.
Ah, en 2 heures, alors. Il y a quand même le raccordement des réseaux, après, ça va peut-être prendre un peu plus de 2 heures.
Tout à fait, en fonction du besoin, le raccordement va être effectué en amont de la pose.
Oui.
Et l'ensemble des agencements, l'ensemble de la décoration, l'ensemble des finitions, tout ça est réalisé en usine pour pas intervenir longuement sur le chantier en site occupé.
D'accord. Mais alors, ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait des accès. C'est un peu comme une piscine. On peut pas balancer, amener un s'il n'y a pas les accès. Ou alors, c'est construit comme un domino. C'est quoi, comme un jeu de construction?
Il faut que vous veniez avec une grue.
Oui. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est très rapide. Et donc, on dérange très peu le propriétaire. Par contre, le seul inconvénient de notre produit, c'est effectivement l'accès. Il faut qu'on puisse lever... notre studio de jardin au-dessus d'un mur ou au-dessus de une maison de cas échéant pour pouvoir la poser. Et donc, on va venir avec une grue adaptée qui permet.
Ah, mais bien sûr, j'imagine que c'est du gros.
On peut gagner combien de mètres carrés? Ça coûte combien votre système?
Alors, on a trois tailles différentes, 15, 20 et 27 mètres carrés. Et en termes de prestations, on va aller d'un studio de jardin vide jusqu'à un studio de jardin tout équipé avec cuisine, salle de bain, où on va avoir des fourchettes de prix entre 20 et 45 000 euros terminées.
Donc on retombe à peu près sur les 2 000 euros le mètre carré, quoi.
On est un petit peu inférieur aux 2 000 euros du mètre carré, on est entre 1 500 et 2 000 euros du mètre carré en fonction du niveau de prestation. En fonction également de la taille qui va être choisie par le client.
Très bien. Merci Damien Tessier. Donc, Natibox, tout simplement.
Ouais, allez voir
sur natibox.fr.
Rapidement.
Très rapidement, les garanties, parce que ça, c'est très important aussi. Il faut avoir une décennale, la dommage ouvrage, comme d'habitude.
Alors, les garanties du professionnel, donc la garantie biennale, la garantie la RC Pro, évidemment, et bien sûr, la garantie décennale. Et pour le particulier, effectivement, donc là, on a la garantie dommage ouvrage, donc qui incombe au particulier. Très important. Ouais.
D'accord, très bien. Donc, merci, Giovanni Loca, donc du Club de l'amélioration de l'habitat.
Il est 8h20 sur RMC. On revient dans un instant. Le squat d'une maison à Théoul-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Tous les médias en ont parlé.
Oui,
histoire incroyable, Christian. On va, nous aussi, évoquer tout cela. Le comportement adopté si on découvre qu'il y a quelqu'un à la maison. Et évidemment, d'autres questions avec notre invité. Dans un instant, à tout de suite, c'est RMC.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 8h moins le quart, c'est RMC et c'est le week-end des experts, c'est la maison. Dans un instant, on va revenir sur le squat de cette maison à Théoul-sur-Mer, mais auparavant, Bruno nous attend au 32-16.
Oui, bonjour François et bonjour Christian, merci d'avoir pris mon appel.
Bonjour Bruno, bienvenue.
Merci. J'écoute votre émission souvent en podcast, hein, forcément. Et donc, j'ai plusieurs questions à vous poser, si c'est possible. Je suis désolé. Alors, mon maître d'œuvre, il me propose pour la construction d'une maison neuve, pour les fondations, les plots béton intermédiaires sur bande noyée par rapport à la place d'un vide sanitaire. Donc,
oui,
qu'est-ce que vous en pensez?
Que c'est une bonne solution en zone, puisque j'ai vu votre question qui est en zone sismique modérée, on va dire quand même.
Hein, oui, c'est, voilà, pas... c'est ça.
Bon, ouais. Donc c'est une bonne solution, on peut le dire, mais moi j'aime bien aussi le vide sanitaire. Simplement, il faut voir, là j'ai pas les éléments concrets sous les yeux, il faut voir si le vide sanitaire est compatible avec les contraintes dans une zone sismique modérée.
D'accord. Et puis, normalement, la construction devrait débuter, je pense, fin de cette année et finira l'année prochaine. Donc, on est actuellement sous la RT 2012.
Oui.
Et peut-être que l'année prochaine, ce sera la RE 2020. Alors, quelle norme s'appliquera pour la
restitution? Celle de la date de votre permis de construire. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez être tranquille. Sur cela, d'abord on ne sait pas quand va rentrer en vigueur la RE 2020, qui aurait déjà dû rentrer en vigueur et qui est reportée à l'été 2021.
Merci beaucoup Bruno.
Voilà.
Allez, on enchaîne pour terminer ce week-end des experts et la maison avec votre coup de gueule, Christian. On va revenir sur ce squat d'une maison à Théoul-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes et nous avons avec nous David Rodriguez, qui est juriste à la CLCV.
Bonjour David, vous êtes souvent intervenu dans notre émission. C'est quand même assez incroyable cette affaire. Enfin, on sait que c'est pas nouveau, mais si on se trouve donc dans cette situation, je rappelle. Donc des propriétaires qui reviennent dans leur résidence secondaire, il y a des gens qui se sont installés et qui ont changé les serrures. Donc c'est un petit peu, c'est du squat. Quel comportement adopter lorsqu'on est confronté à cette situation? Parce qu'on a tendance à avoir envie de faire justice soi-même, j'imagine.
Oui, tout à fait. Le sang peut rapidement monter la tête. Faut faire très 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 attention parce que le propriétaire, de façon, sent légitimement face à une situation d'injustice. Il ne faut pas ce que vous veniez de dire. Faut pas se faire justice soi-même, c'est-à-dire qu'on va pas déloger par ses propres moyens les squatteurs, parce que sinon, là encore, ça va devenir du pénal. Alors le squat, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est l'introduction d'une personne par le biais d'une violation de domicile.
Ouais.
Donc ce qu'il faut faire, c'est faire constater immédiatement le squat, donc ça veut dire faire éventuellement... Faut faire très vite. Éventuellement, appel à un huissier, aller voir la police, déposer plainte, mais justifier, c'est l'axe ça peut être compliqué, eh oui. Surtout si c'est sa résidence secondaire, justifier de son titre de propriété. Alors, généralement, si c'est votre résidence principale, tous vos papiers,
ils sont à l'intérieur.
Ils sont à l'intérieur. Donc, l'apport de la preuve se fait par tout moyen. Ça peut être des attestations de voisins. Maintenant, heureusement, je veux dire, avec tout ce qui concerne les smartphones et tout, on peut facilement trouver une attestation, soit d'une adresse par une facture téléphone portable, oui. Ou des impôts.
Oui, tout à fait.
Donc voilà. Mais l'apport de la preuve se fait par tout moyen. Donc ça, il faut.
Oui. Premier réflexe, huissier. Aller au commissariat.
Oui, pour porter plainte, tu imagines.
C'est ça. Et en même temps, on démonte son titre de propriété. Et,
d'accord. Pas perdre de temps, justement, arriver déjà avec tout son dossier constitué. Et ouais. Alors, après, parce que c'est pas le tout, pour autant, les policiers vont pas venir déloger les squatteurs.
En fin de compte, les policiers, ils vont constater. Donc, on peut faire constater, effectivement, également par un officier de police, si c'est sa résidence principale, on peut faire constater, pas forcément par un huissier, mais par un officier de police, que le logement est squatté. Alors, après... Le mieux, c'est d'aller voir un avocat qui, lui, saisira le préfet pour qu'il mette en demeure les squatteurs de quitter les lieux.
D'accord. Alors ça, c'est pour la résidence principale.
Tout à fait. Et si... Alors, parfois, le préfet ou les forces de police ne procèdent pas au délogement des squatteurs, parce que ça va dépendre des situations, notamment...
S'il y a des enfants, des choses comme ça.
Il y a des enfants, ce genre de choses. Ou sinon, ce sont des bureaux. Vous voyez, tout dépend, bien évidemment, de la situation. Et si la situation ne se développe pas au niveau préfectoral, si je puis dire, dans ce cas-là, on prend le juge, on prend un avocat, et là, c'est la procédure va se faire devant le juge.
Et là, ça prend des semaines, voire des mois.
Ah oui.
Tout à fait. Et tout ça, effectivement, c'est pour la résidence principale. Si on est pour la résidence secondaire, la procédure est plus ou moins identique, à ceci près que il faut faire constater la flagrance. C'est-à-dire que la procédure accélérée, elle doit se faire dans les 48 heures qui suivent l'installation des squatteurs. Alors, si c'est votre résidence secondaire, par définition, vous n'êtes pas forcément là, donc c'est très très difficile. Ça veut dire que, en fait, au-delà de 48 heures, il faut d'office saisir un avocat qui saisira.
Attendez, au-delà de 48 heures de votre constatation ou dans les 48 heures de l'installation des squatteurs ?
De l'installation.
Ah oui, donc ça, il faut qu'un des voisins vous ait informé.
Tout à fait, parce qu'en fin de compte, on sera sur la flagrance. Flagrance d'une violation de domicile. C'est pour ça qu'on a ce délai de 48 heures.
Mais alors, malgré tout, est-ce que le bon conseil, c'est pas d'avoir aussi une télésurveillance avec un système de déclenchement d'alarme ?
Oui, de notification.
Qui aujourd'hui coûte quoi ? Coûte 30 euros par mois, quoi, en gros. Hein.
Alors, il peut y avoir la télésurveillance qui est utile dans le cadre de maisons, de pavillons, effectivement. Elle se fait de façon plus rare dans des appartements. Il ne faut pas oublier, on a quand même en copropriété des appartements qui peuvent être squattés. Donc il y a la télésurveillance, mais il y a aussi tous ces réflexes qu'il faut prendre, je dirais également quand on part en vacances, pour éviter les cambriolages.
Prévenir les gendarmes, puisqu'il y a le système Sérénité, là.
Oui, voilà, il y a des systèmes comme cela, mais également créer l'illusion de la présence.
Oui.
C'est-à-dire que voir avec des amis, de avec des voisins, les boîtes aux lettres, des boîtes aux lettres qui dégorgent de courriers, de papiers publicitaires, on sait d'office que le logement est vacant.
Mais alors David, imaginons dans le meilleur des cas, on a fait toute la procédure que vous venez d'évoquer, et comment on récupère ensuite ? Parce que c'est pas le tout, il y a condamnation, on va arriver là dans la période hivernale, qu'on n'expulse plus jusqu'au mois de mars.
Alors, la trêve hivernale ne s'applique pas pour les squatteurs. Donc la trêve hivernale, on le rappelle, c'est la période qui va du 1er novembre au 31 mars qui crée un sursis aux expulsions.
Alors, c'est notamment surtout les expulsions, c'est pour les locataires. Locatives. D'accord, voilà, c'est ça.
Voilà. Le locataire n'est pas quelqu'un qui est rentré dans le logement par effraction. C'est quelqu'un dont on veut qu'il quitte le logement parce qu'il ne respecte pas ses obligations principales, à savoir généralement paiement du loyer. Mais il avait quand même un titre qui lui permettait le droit d'être dans les lieux. Ce qui n'est pas le cas du squatteur. Le squatteur, dès le départ, lui, il n'a aucun droit parce qu'il est rentré dans les lieux par le biais d'une violation de domicile, donc une infraction pénale.
Et alors l'expulsion, ce sont les forces de police qui la pratiquent ?
Donc effectivement, si on a la chance de ne pas aller devant le juge, ça va être les forces de police, sur demande du préfet. Sinon, c'est le juge qui va l'ordonner. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est la force de police qui va mettre en place l'expulsion.
Merci beaucoup, David Rodriguez. Je rappelle, vous êtes juriste à la CLCV.
Christian PC, merci. À la semaine prochaine pour la maison.
Oui.
7h-8h. Et dans un instant, après la météo et les infos, ce sera Christian Ricca pour la forme et la santé. On va évoquer ensemble le petit déjeuner parfait. À tout de suite.